Il est exactement 9h à Nyoka, dans le Nord Kivu, et 8h à Nyoki, dans le Maïndombe. C'est l'heure de nous informer à la présentation Blaise Shindani Kambala.
Radio Kapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, le ministère de l'économie nationale à travers la commission de la concurrence annonce lancer à partir de ce 1er mai 2026 la pré-campagne Loba, un logiciel de chat conçu comme assistant virtuel. Cet outil innovant couvre presque tous les secteurs de la vie nationale. L'Assemblée nationale a déclaré recevable ce jeudi la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en RDC. Selon son initiateur, Paul Gaspard Ngondankoy, ce texte vise à renforcer l'exercice de la souveraineté du peuple prévu par la Constitution et exercé par référendum ou par élection. Plusieurs ménages de la ville de Kindu sont victimes des inondations fluviales et manquent d'assistance adéquate pour faire face. Pour voler au secours de ces dernières, Midefe Hope venait de lancer les activités du projet de réponse aux crises des inondations fluviales dans la province du Maniema et dans 3 communes de la ville de Kindu. Pour en parler, nous recevons Hugues Katembo, qui est superviseur principal de ce projet. Encore une fois, bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce journal du week-end. Le ministère de l'économie nationale, à travers la commission de la concurrence COMCO, annonce le lancement à partir de ce 1er mai 2026 de la pré-campagne de Loba, un logiciel de chat conçu comme assistant virtuel destiné à informer les consommateurs sur leurs droits et à faciliter la gestion des plaintes et dénonciations dans plusieurs secteurs régulés. Cet outil innovant couvre notamment les domaines des banques, des assurances, des télécommunications, du transport aérien, des produits pharmaceutiques et alimentaires, de la santé publique ainsi que du secteur de l'électricité, note le communiqué du ministère de l'économie. Les détails avec Christian Makasinga.
Pour sa phase pilote, le chatbot Loba sera expérimenté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avant de s'étendre dans les provinces. Cette phase permettra la récolte de premières plaintes en collaboration avec les principales autorités de régulation, notamment l'autorité de régulation de postes de télécommunications du Congo, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, la Banque centrale du Congo, l'autorité de l'aviation civile, l'autorité de la régulation et de contrôle de la couverture santé universelle, ainsi que l'autorité de régulation et des réglementations de produits pharmaceutiques et les opérateurs de chaque secteur sus-énumérés. Les chatbots Loba visent à accompagner le consommateur dans la formulation de plaintes et des dénonciations structurées conformes aux procédures en vigueur dans les différents secteurs concernés. Il permettra également aux utilisateurs de consulter leurs droits relatifs aux biens et services fournis par les opérateurs économiques soumis aux réglementations en vigueur. À travers cette initiative, le ministère de l'économie nationale réaffirme son engagement à renforcer la transparence du marché et des protections de consommateurs sur l'ensemble du territoire national. Cet outil permettra non seulement de protéger le consommateur, mais aussi de détecter et signaler les pratiques abusives pour un meilleur suivi et une réparation des préjudices. Les signalements recueillis alimenteront une base de données destinée à renforcer la surveillance du marché et à cibler les secteurs nécessitant une vigilance accrue.
Et puis en Ituri, au moins 60% des jeunes sont sans emploi, tandis que d'autres ont rejoint des groupes armés actifs. Ces chiffres ont été rendus publics par la Division provinciale du travail et de l'emploi à l'occasion de la Journée internationale du travail, célébrée par un défilé des travailleurs dans les principales artères de Bounia. Ce service appelle le gouvernement à renforcer les efforts de pacification afin de promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Isaac Remoyope, reportage.
Au rythme des fanfares, les travailleurs ont défilé ce vendredi sur les boulevards de Libération pour marquer la Journée internationale du travail, célébrée cette année sous le thème « Promouvoir l'emploi vert ». Dans son discours, le chef de division du travail et de l'emploi a dénoncé l'enrôlement de certains jeunes dans les groupes armés au détriment de l'accès à un emploi décent. Il a également pointé du doigt l'exploitation illégale des ressources minières au détriment des populations locales. Conséquence, un grand nombre de jeunes, estimés à plus de 60%, se retrouvent sans activité. Il appelle le gouvernement provincial à renforcer la sécurité pour favoriser l'entrepreneuriat des jeunes.
Les jeunes et les femmes en âge d'activité sont à majorité recrutés dans les forces et groupes armés. Plaise à votre autorité de renforcer les mesures de sécurité pour que cette paisible population retrouve la paix afin de se lasser dans le monde du travail et de l'entrepreneuriat.
La division du travail recommande également la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, considérées comme un levier essentiel pour une paix durable dans la province. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
L'Assemblée nationale a déclaré recevable ce jeudi la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en RDC, portée par le député Paul Gaspard Ngondankoy. Ce texte vise à combler un vide juridique et à adapter le cadre légal du référendum aux exigences de la Constitution. Le document est désormais transmis à la Commission politique juridique et administrative pour examen approfondi. Les détails avec Grace Amzati, notre permanent au Parlement.
Dans l'exposé des motifs, son initiateur, Paul Gaspard Ngondankoy, explique que ce texte vise à renforcer l'exercice de la souveraineté du peuple prévu par la Constitution et exercé par référendum ou par élection. Selon lui, si les élections sont aujourd'hui bien encadrées, le référendum reste régi par une loi ancienne adoptée en 2005 dans un contexte de transition et désormais jugé inadapté. L'élu de Yahuma, Dalla Tchopo, indique que sa proposition vise à moderniser ce cadre en précisant les conditions d'organisation du référendum, son déroulement ainsi que les mécanisme de validation des résultats et des contentieux. Le texte prévoit également le renforcement des dispositions pénales pour garantir la transparence du processus ainsi qu'un mécanisme de transition destiné à éviter d'éventuels blocages institutionnels tout en permettant des ajustements encadrés avec l'aval du peuple. D'après son auteur, l'application de cette loi permettra de mieux encadrer l'organisation du référendum en RDC, considéré comme un outil clé de la démocratie directe. Jugé recevable par la plénière, le texte a été transmis à la commission PAJ qui dispose des 10 jours pour présenter son rapport.
La proposition de cette loi sur l'organisation du référendum, jugée recevable à l'Assemblée nationale, suscite de vives critiques au sein de l'opposition. L'opposant d'Eli Sanga dénonce ce qu'il qualifie de dérives graves, estimant que ces textes pourraient servir à contourner la Constitution et ouvrir la voie à un troisième mandat au président Félix Tshisekedi. De son côté, le porte-parole de la plateforme Lamuka, Prince Epengé, parle d'un pas vers un coup d'État constitutionnel et met en garde contre toute tentative de remise en cause de l'article 220 de la Constitution qui limite le nombre des mandats du chef de l'État. Selon lui, cette démarche du pouvoir viserait à modifier les règles fondamentales issues du pacte constitutionnel. On écoute Prince Epengé dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
C'est tout simplement une rébellion contre la Constitution et spécialement une bombe visant l'article 220 de la Constitution. Pour la Mouka, pour la DD Congo et le peuple congolais, l'article 220 de la Constitution, c'est un fruit sacré. Toucher à l'article 220 par la voix d'ensemble ou par la volonté des députés, quelle qu'elle soit, c'est un coup d'État. C'est une offense à la volonté du peuple cimentée dans l'article 220. La Mouka se donnera les moyens. Nous allons nous battre comme Félix n'a aucune idée avec le peuple pour que l'article 220 de la Constitution soit respecté, tel qu'on l'a fait sous Kabila. Félix veut remplacer le peuple par ses députés. Félix veut bafouer la volonté du peuple pour se maintenir au pouvoir. Il est hors de question qu'on puisse bombarder l'article 220, qu'on puisse le changer par la volonté de quelques individus se retrouvant au Parlement.
Par ailleurs, les sanctions américaines visant l'ancien président Joseph Kabila sont injustifiées et politiquement motivées. C'est la réaction de son cabinet dans un communiqué rendu public ce jeudi. Dans ces documents, le président honoré rejette les accusations portant sur son implication présumée dans la déstabilisation du pays et dénonce un narratif qu'il estime non fondé. Il réaffirme par ailleurs son attachement à l'unité nationale et annonce envisager des voies légales pour contester cette décision. Le papier de Grace Amzati, rendu par Ella Chembalo.
Dans ses communiqués, les cabinets de l'ancien président de la République qualifient cette mesure d'étonnante, injustifiée et politiquement motivée, estimant qu'elle repose sur des accusations non étayées de preuves. Joseph Kabila revient sur son parcours à la tête de la RDC entre 2001 et 2019, mettant en avant son action en faveur de la réunification du pays, de la pacification progressive, de la réconciliation nationale et de la stabilisation de la région des Grands Lacs. Il rappelle également que son mandat s'est conclu par la première passation pacifique du pouvoir dans l'histoire du pays. Les communiqués estiment par ailleurs que la décision américaine s'appuierait sur des accusations portées par les autorités congolaises, sans preuve judiciaire solide, et pourrait être perçue comme un soutien à une dérive autoritaire. Sur le plan politique, Joseph Kabila réaffirme son attachement à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale de la RDC ainsi qu'à une solution politique inclusive à la crise actuelle. Enfin, il annonce se réserver le droit d'engager des recours juridiques pour contester cette décision et défendre son honneur. Citant l'article 64 de la Constitution, il dit rester déterminé à œuvrer pour le rétablissement de l'état des droits, de la démocratie et de la cohésion nationale en République démocratique du Congo.
Le gouverneur de la province du Congo central, Grace Nkwanga Bilolo, a procédé ce vendredi à un vaste réaménagement dans l'architecture gouvernementale, donnant naissance à une nouvelle équipe baptisée Bilolo 3. Ce remaniement, qui intervient peu de temps après plusieurs changements, notamment au cabinet du gouvernement, à la direction centrale des recettes du Congo central, ainsi que dans certains services stratégiques liés au péage et au paysage sur la route nationale numéro 1, suscite de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique. Élise Kavira pour plus de détails.
Pour l'opinion publique, cette restructuration est le signe d'une volonté de l'autorité provinciale de redynamiser et renforcer les secteurs clés du gouvernement du Congo central. Sur le plan politique, plusieurs figures de l'ancien gouvernement conservent leur place, tandis que des nouveaux visages font leur entrée. Parmi les entrants figure Joseph Nzalambi Babankita, nommé ministre au plan fonction publique et numérique, Dodo Montamina Nzuela, qui est aux infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire, Jean Kimbo Kondombasi, affecté à l'éducation, santé, affaires sociales, communication et porte-parole du gouvernement. Parmi ceux qui gardent leur poste, il y a Jacques Kiazola Vanakiaku, qui garde son poste comme ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Madame Katazabu Kasavubu, qui reste aux hydrocarbures, Edouard Sambantitu, au ministère de la Justice, Droits Humains, Transports, Voies de Communication et Commerce Extérieur. Cette combinaison entre continuité et renouvellement est perçue comme une stratégie visant à consolider l'action gouvernementale tout en élargissant les équilibres politiques internes.
Matadi, Élise Kavira, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, la dégradation des infrastructures routières continue de poser de sérieux problèmes dans plusieurs communes de la capitale. Circulation difficile, embouteillage et difficultés pour les piétons à marcher. C'est le cas de l'avenue Victoire dans la commune de Kasavubu où la chaussée et les systèmes d'évacuation des eaux sont fortement dégradés, compliquant les déplacements tant pour les piétons que les engins roulants. Les détails dans ce reportage signé Joyce Mansaka.
Sur place, le constat est préoccupant. La chaussée présente de nombreux nids de poules et de portions fortement endommagées. À certains endroits, les tuyaux d'évacuation sont endommagés, ce qui accentue les risques d'inondation et rend le passage difficile pour les piétons.
Ici, nous sommes au rond-point Victoire. Ce sont les eaux des canalisations qui se déversent sur la chaussée car les caniveaux sont bouchés. Nous sollicitons l'intervention des autorités pour l'équirage de ces caniveaux.
Les conducteurs également sont obligés de ralentir à chaque trou, provoquant des régulièrement des embouteillages.
Les eaux que vous voyez ne sont pas des eaux de pluie, ce sont plutôt des eaux qui viennent de tuyaux percés et des caniveaux bouchés. Nous faisons le salon chaque samedi, mais rien ne change vraiment. Nous, les motards, n'avons même pas d'espace de parking à cause de ces eaux. Nous demandons à l'État de se pencher sur ces problèmes.
On est exposé.
Selon les agents de la régie des eaux, des travaux de réparation et de réhabilitation des caniveaux et des tuyaux d'évacuation vont démarrer dans le tout prochain jour. En attendant, les usagers de cette avenue continuent de subir les conséquences de cette dégradation au quotidien.
Dans les mêmes registres en Ituri, des tas d'immondices et des déchets s'accumulent jusqu'à former des véritables collines dans certains sites des déplacés à Bounia. C'est notamment le cas des sites de l'ISP et des Kingons situés à l'extrême nord de la ville. Dégageant des odeurs nauséabondes, ces ordures exposent les populations vulnérables à des graves risques sanitaires. Le service de la protection civile appelle à une intervention urgente. Reportage Martial Kizabiamongo.
Nous sommes au site de déplacés de l'ISP Bounia, situé au quartier Mouzipela. Ici, des montagnes de déchets s'amoncellent en plein air à proximité des habitations. Ces immondices sont composés notamment de déchets ménagers, de liquides usés, des matières fécales et bouteilles en plastique. La même situation s'observe au site des Kigonzé. Depuis plusieurs mois, ces déchets dégagent des odeurs nauséabondes qui gênent les habitants. Gérard Maki, vice-président du comité de déplacés du site de l'ISP Bounia.
Nous plaidons beaucoup s'il y a moyen qu'on puisse nous rapidités et pour évacuation.
Exposés en permanence à ces conditions insalubres, les déplacés redoutent des conséquences graves sur leur santé. De son côté, le service provincial de la protection civile qualifie la situation d'alarmante et appelle à la mobilisation des acteurs en charge de l'assainissement et de l'hygiène.
La mobilisation des services d'assainissement et hygiène qui peut disponibiliser le moyen logistique pour que ces immondices soient rapportés.
Il y a quelques jours, certains partenaires ont tenté d'évacuer une partie de ces déchets, mais faute de moyens suffisants, les problèmes persistent. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, après avoir conquis Kidal le week-end dernier, les djihadistes du groupe de soutien de l'islam et aux musulmans Nim et les indépendantistes du Fonds de libération de la Zawad Flat ont pris vendredi 1er mai le contrôle des camps militaires des Tessalites et d'Angouéloc. Leur progression inquiète les habitants des grandes villes du nord du Mali. Dans un communiqué diffusé dans la nuit du 30 avril au 1er mai, les Nim tentent plus que jamais de se positionner en acteurs politiques appelant toutes les forces vives de la nation malienne à faire chuter le régime en place. Les autorités de transition demeurent déterminées à combattre et à se maintenir au pouvoir avec le soutien de la Russie. Les opérations militaires se poursuivent et des citernes sont entrées à Bamako en dépit du blocus djihadiste.
L'invité.
Comme vous le savez, plusieurs ménages de la ville de Kindu sont victimes des inondations fluviales et manquent d'assistance adéquate pour faire face. Ainsi donc, pour voler au secours de ces dernières, le Mouvement international des droits de l'enfant, de la femme et de l'homme et leur promotion sociale MIDEFEOP venaient de lancer les activités du projet de réponse aux crises des inondations fluviales dans la province du Maniema, ville de Kindu, commune de Mikelenge, Alungouli et Kasuku. Un projet qui vise 800 ménages. Pour parler de ce projet, Florence Kizalunga reçoit pour nous Hugues Katembo, qui est superviseur principal de ce projet.
Hugues Katembo, bonjour.
Bonjour madame.
Que vise ce nouveau projet que vous amenez aujourd'hui dans la ville de Kindu, notamment dans les trois communes?
Le projet a pour objet, c'est réduire l'impact humanitaire des inondations fluviales en ville de Kindu avec trois approches, à savoir les actions anticipatives, la réponse rapide et la stabilisation précoce.
On comprend que ce projet, en quelque sorte, la réponse est multisectorielle. Elle vise combien de sinistrés?
Oui, le projet est multisectoriel, à savoir, ça vise les WASH, donc eau, hygiène, assainissement, ça vise la protection, et ça vise la santé, ça vise aussi la réduction des risques et des catastrophes. Et puisque le projet est financé par les fonds de réserve, Start Network, Start Ready, le projet ne vise que 800 ménages, ce qui représente 4800 personnes, avec une moyenne de ménages de 6 personnes. Alors, c'est vrai que les besoins sont énormes par rapport à la crise, mais nous allons nous limiter à 800 et pour sélectionner ces 800, nous avons des critères de vulnérabilité extrême. C'est ce qui pourra nous permettre d'atteindre les 800.
Alors, comme le projet est multisectoriel il s'agit d'une assistance aux crises des inondations fluviales, quelles sont les activités que vous allez mener sur terrain?
Nous allons faire les cash, c'est-à-dire nous allons donner les cash au aux nécessités pour 800 ménages. À ce qui concerne la santé, le projet vise à appuyer les structures de santé en médicaments pour que les sinistrés soient en mesure d'accéder aux soins de santé. Ces structures de santé aussi vont bénéficier, à ce qui concerne les Hoches, vont bénéficier des latrines. On va construire des latrines dans ces structures de santé. Mais aussi, comme nous avons pris aussi l'objectif de mettre en l'aide sur les victimes de violences basées sur les genres, le projet aussi, en ce qui concerne la santé, va prendre en charge la prise en charge de ces victimes de violences basées sur les genres, en traitement psychologique, mais aussi en kit d'hygiène de dignité. Concernant la réduction des risques de catastrophe, c'est la surveillance de la montée des eaux, la sensibilisation communautaire, mais aussi les mesures d'hygiène qui doivent être respectées par la communauté.
Mais ici, dans la ville de Kindu, les victimes des inondations fluviales sont nombreuses, mais votre projet ne vise que 800. Comment est-ce que vous allez faire concrètement pour que les vrais sinistrés puissent bénéficier de votre assistance?
Comment on va faire pour atteindre ces ménages? C'est les critères. On a défini les critères de vulnérabilité. Ce sont des critères qui vont nous orienter. Donc c'est l'approche genre handicap.
Alors vous allez procéder à une nouvelle identification ou bien vous allez vous contenter de ce que les services étatiques avaient déjà fait sur place?
Bon, très bonne question madame, puisque bon, le projet ne vient pas commencer aujourd'hui. C'est un projet, comme je vous ai dit, l'approche c'est les activités anticipatives. Parmi ces activités anticipatives, nous avons déjà fait l'identification sur base des études qui ont été menées ici, et le projet ne vient pas de venir réidentifier les gens, mais sur base des informations que nous disposons sur la population, nous allons appliquer les critères pour sélectionner les 800 parmi la base de données déjà faite par les services de l'État, les humanitaires et même la société civile.
Qu'est-ce que vous attendez des autorités pour un aboutissement erré de ces projets?
C'est continuer à s'impliquer, toujours, puisqu'en fait, le projet a impliqué tout le monde, les autorités, la société civile et même les bénéficiaires. Donc, ce qui peut faire que les autorités puissent nous en un bon résultat, c'est l'appui, de s'impliquer de plein pied et que chacun joue son rôle pour que nous puissions atteindre l'objectif final du projet.
Cette fois-ci, il n'y aura pas de réclamations disant que vous avez servi les victimes et qui ne sont pas les vraies victimes.
Bon, là, vous touchez la question de la redevabilité. Toutes ces activités seront menées avec la présence de la société civile, de l'autorité locale, des bénéficiaires. Donc, une fois on a ciblé, nous allons afficher les listes avant la distribution. Que les gens viennent découvrir s'il y a des personnes d'une même famille ou il y a des doublons, c'est l'objectif de ces listes. Donc ces listes seront validées par la communauté. Et cela, je pense que ça pourra réduire les risques de réclamation, puisque les critères sont vraiment applicables à tous et que cette façon de faire crédibilise même les bénéficiaires qui seront touchés par l'assistance.
Hugues Katembo, merci.
Merci madame.
C'était notre invité Hugues Katembo qui s'entretenait avec Florence Kizalunga. Et c'est ce qui met fin à ce journal du matin, coordonné et supervisé par Richard Junior Kamunga et mis en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Ce journal est disponible sur notre site internet www.radiocapi.net.